Éco, le rendez-vous des entreprises en Occitanie avec Mescar. Mescar, maison d'investissement et de conseil, partenaire d'Éco, est présent à Toulouse.
Bienvenue à l'écoute d'Éco pour ce troisième rendez-vous avec Nassim Amis, président directeur général d'Eagle Eye Digital, une société spécialisée dans l'utilisation de LinkedIn qu'il a fondée en 2020. Lors des deux émissions précédentes, vous nous avez raconté l'histoire de la création de votre entreprise et vous avez présenté les services que vous proposez à vos clients. Ce troisième numéro va être consacré à vos collaborateurs, à leur mission et à la manière dont vous les accompagnez dans leur travail et leur carrière.
Éco, le rendez-vous des entreprises en Occitanie, Éric Dupri.
Et je salue Nassim Amis, heureux de vous retrouver pour cette troisième émission dédiée à Eagle Eye Digital.
Très heureux également de vous retrouver, Eric.
En juin 2026, Eagle Eye Digital, vous nous l'aviez dit lors de la première émission, c'est 4-5 salariés. Alors vous allez nous expliquer quels sont leurs statuts précis. Mais surtout, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce sont les missions qu'ils assurent au sein de l'entreprise.
Aujourd'hui, au niveau de mon équipe, j'ai 2 salariés. Et j'ai 2 collaborateurs auxquels je fais appel et qui sont externes à l'entreprise. Je vais vous définir un petit peu les missions en commençant par ceux qui sont salariés, celles qui sont salariées pour être plus précis aujourd'hui, qui sont littéralement mes bras droit et gauche pour gérer mon activité. Et les deux sont indispensables. D'un côté, on a Dorian. Dorian, j'évoquais dans l'émission précédente le fait que ma première embauche, c'était des étudiants en alternance. Une étudiante en alternance. Et Dorian faisait partie de ses premiers recrutements il y a 4 ans. Et aujourd'hui, elle travaille avec moi, au quotidien. Sa première mission, c'était de gérer les campagnes de prospection de nos clients. Donc de cette manière, moi, je pouvais me concentrer sur aller chercher et trouver des clients. Et elle pouvait assurer la partie mise en place. Et puis petit à petit, notre entreprise a évolué. On a commencé à proposer plus de formations, plus d'accompagnement. Et la mission de Dorian s'est élargie. Elle est en charge aujourd'hui de la satisfaction client. Donc ça va de la gestion de campagne, ça va de la mise en place de conventions de formation pour aller chercher de financement, ça va des enquêtes de satisfaction qu'elle met en place, ça passe aussi par des coachings qu'elle réalise auprès de certains clients. Tout ce qui rend nos clients heureux, c'est Dorian qui en est responsable aujourd'hui.
C'est une grande responsabilité de rendre les clients heureux.
C'est une très grande responsabilité, mais... Quand on a les bonnes compétences, ben voilà, Dorian est à la hauteur de cette...
Les compétences sont lesquelles, justement, pour ce type de mission?
C'est surtout beaucoup d'organisation et d'efficacité dans le travail. Parce qu'on travaille avec beaucoup d'entreprises, beaucoup d'entrepreneurs, les besoins peuvent être différents, les accompagnements différents. Dorian a des campagnes promotionnelles à gérer sur LinkedIn, des dossiers de conventions à valider et pour aller sécuriser les financements de nos clients, des formations à réaliser... Et tout ça pour beaucoup de personnes. Ajoutez à ça, elle a un chef qui est très créatif, qui se lève à 5 heures du matin, voilà, pour ceux qui ont suivi l'émission précédente, qui a beaucoup d'idées, qui envoie beaucoup de messages. Et donc, il faut être très organisé pour pouvoir mener à bien toutes ces missions quasiment de face.
Il faut sans doute avoir un esprit de synthèse, je pense.
Oui, clairement.
C'est préférable, en tout cas. Votre autre collaboratrice, parce qu'il n'y a que des femmes pour l'instant.
Tout à fait.
Vos collaborateurs sont des collaboratrices.
J'ai recruté les personnes les plus compétentes... Lors des rendez-vous, lors des entretiens, effectivement, c'est 2 femmes.
Donc les autres profils, enfin les autres missions qui sont assurées?
Alors Karen, mon bras gauche, elle travaille sur la partie commerciale qui englobe notre visibilité digitale, les publicités que l'on fait, l'organisation de nos webinaires, rappeler certaines personnes pour voir si elles ont un intérêt à travailler avec nous, et aussi la mise en place d'une manière efficace de l'intelligence artificielle dans l'entreprise.
Alors, puisque vous en parlez d'intelligence artificielle, je voulais aborder le sujet un peu plus tard dans l'émission, mais c'est sans doute le moment. Comment vous la mettez en place dans l'entreprise? Est-ce que vous y êtes venu rapidement d'ailleurs, parce que vous avez tout de suite senti que il fallait s'engouffrer dans cette porte qui s'ouvrait et que ceux qui ne le feraient pas seraient sans doute à la traîne ensuite? Comment vous l'utilisez pour l'instant? Est-ce que vous êtes fixé des limites dans l'utilisation de l'intelligence artificielle?
Alors, effectivement, on s'est intéressé à l'intelligence artificielle très vite parce qu'il y avait une belle promesse, l'efficacité dans les résultats. Alors, on obtient des résultats plus vite et souvent plus qualitatifs quand on utilise de la bonne manière l'intelligence artificielle. Et en tant que chef d'entreprise, forcément, c'est une de mes missions de m'assurer que mon organisation est la plus efficace possible. que ce soit dans notre communication, dans notre prospection, dans la manière dont on s'occupe de nos clients, on a commencé à regarder l'intelligence artificielle de très près pour voir comment est-ce qu'on peut toucher plus de monde, accompagner plus de personnes, accompagner mieux plus de personnes grâce à l'intelligence artificielle. Et puis, par ricochet, dans nos accompagnements, on apporte cette dimension intelligence artificielle quand bien même on structure les activités commerciales de nos clients sur LinkedIn grâce à ce que l'on propose, bah forcément on incorpore l'intelligence artificielle aujourd'hui pour qu'eux-mêmes puissent être plus efficaces.
Alors vous avez deux salariés, mais aussi je crois des gens qui travaillent avec vous, mais qui sont extérieurs à l'entreprise, qui ne sont pas dans vos effectifs. Quelles sont leurs missions à ces personnes-là ?
Oui, j'ai une assistante administrative externalisée, donc ses missions vont varier selon les dossiers qu'on peut avoir besoin de lui confier. Et surtout, j'ai une commerciale externalisée qui, elle, va gérer certains rendez-vous d'entreprises potentiellement intéressées par nos services pour bien confirmer leurs besoins et pouvoir leur présenter la manière dont on va pouvoir les aider.
Quand vous lancez un recrutement, quels sont pour vous les critères les plus importants, ceux qui sont décisifs pour que vous embauchiez quelqu'un ?
Il y a un critère que je citerai parmi les nombreux critères que je regarde, c'est l'état d'esprit. J'ai embauché beaucoup de jeunes étudiants en alternance, puis les étudiants en alternance deviennent des salariés, ça fonctionne comme ça chez nous aujourd'hui. Et lors des entretiens, c'est pas tant l'expérience professionnelle de ces personnes-là qui était l'élément différenciant, c'est des étudiants, donc forcément, on peut pas s'attendre.
D'ailleurs, c'est limité, oui.
C'est limité. Par contre, sur l'état d'esprit, sur l'envie d'apprendre, sur le sérieux, sur la capacité à montrer que l'on a envie. Parce que moi, quand je propose une alternance dans mon entreprise ou un recrutement, j'explique bien comment est-ce qu'on travaille, j'explique bien qu'on est au service de nos clients, et quand je vois quelque chose briller dans le regard de la personne en face, je me dis que c'est déjà bon signe. Le sérieux et l'envie, c'est vraiment des éléments clés.
Oui, parce que lors de notre deuxième émission, on avait évoqué les valeurs de votre société, celles que vous voulez véhiculer aussi bien auprès de vos clients auprès des gens qui travaillent avec vous. Donc, il faut que vous sentiez chez la personne que vous allez recruter une adhésion totale à ces valeurs.
Absolument. Et donc, ce n'est pas l'expérience professionnelle qui prime, c'est vraiment l'attitude et la motivation. Il y a des personnes qui préparent très bien leurs entretiens et qui ont la bonne curiosité pendant ces entretiens. Parce que je demande souvent à ce qu'on me pose
des questions.
Et dans la qualité des questions que l'on me pose, j'arrive à deviner, j'arrive à savoir comment la personne réfléchit, qu'est-ce qui l'intéresse, qu'est-ce qui la motive.
Comment vous accompagnez vos collaborateurs dans le développement de leur carrière et de leurs compétences ? Parce que je pense que c'est un domaine où il faut presque sans cesse développer ses compétences et ses connaissances.
Oui, c'est un très bon point. J'ai eu personnellement la chance pendant ma carrière professionnelle d'avoir été managé par des personnes, par mes responsables, qui ont été attentifs à mon développement. Et on a tendance à reproduire ce que l'on a connu. Ce que j'essaye de faire, c'est d'avoir des échanges réguliers, forcément on discute tout le temps ensemble de par nos missions, d'être attentif à ce qui peut leur manquer pour mieux performer dans leur mission, mais aussi d'avoir des discussions régulières pour savoir où est-ce qu'elles veulent aller, quelles sont les aspirations, quelle est l'évolution vers laquelle ces personnes-là pourraient aller. Discuter de ma vision par rapport à leur développement. Alors le premier exercice est de faire converger les visions. Et une fois qu'elles convergent, de définir des jalons, de définir des étapes pour qu'elles puissent grandir.
Ce qui veut dire que votre porte est toujours ouverte à vos collaborateurs pour qu'ils puissent vous poser toutes les questions qu'ils souhaitent, mais aussi pour parfois peut-être éclaircir certains points qu'ils ne comprennent pas bien, ou peut-être aussi parce qu'ils ont des critiques à faire à la façon dont fonctionne l'entreprise.
Tout à fait. Le dialogue est primordial. Alors, il y a deux consignes que je donne à mon équipe. De désactiver les notifications sur le téléphone parce que moi, je commence à envoyer des mails et des messages à 5h du matin. Je tiens à ne pas les polluer en dehors des horaires de travail. Et deux, d'avoir une communication proactive avec moi. Que ce soit sur des sujets ou parfois des problématiques liées au travail, mais parfois même sur des sujets qui peuvent être plus personnels ou autres. C'est mon rôle de les aider, c'est mon rôle en tant que chef d'entreprise de veiller à ce qu'elles aient les bonnes conditions pour travailler, pour se développer, pour s'épanouir.
Je reviens à l'aspect compétences et connaissances. La formation continue chez vous, c'est quelque chose à quoi vous veillez ? À ce que vos collaborateurs puissent en bénéficier lorsqu'ils en ressentent le besoin ?
La réponse est oui. On est sur un domaine du digital où souvent cette formation se fait en étant attentif à ce qui se passe autour de nous. Que ce soit sur YouTube, que ce soit sur LinkedIn, on voit les choses bouger. Des choses qui bougent avant même qu'elles aient intégré des cursus de formation ou de montée en compétences plus classiques. Et nous, on dédie du temps à ça et on dédie du temps pour pouvoir effectuer cette veille d'une manière efficace et pour pouvoir s'approprier ce que l'on découvre.
Vos collaborateurs sont de jeunes personnes, si j'ai bien compris. Beaucoup étaient encore étudiants il y a peu. Est-ce que pour autant, vous pourriez recruter des seniors dans votre société?
Oui, totalement. Effectivement, il y a quelques années, je privilégiais le recrutement de juniors pour des raisons budgétaires. Maintenant que mon entreprise est dans une dynamique de développement différente et positive, oui, le recrutement de personnes plus expérimentées pourrait être une option.
L'expérience pourrait être aussi un atout supplémentaire, l'expérience notamment du monde de l'entreprise et de ses besoins pourrait être un atout supplémentaire pour votre société.
Clairement. Sur mes premiers recrutements, c'était de l'énergie, entre guillemets, que je recrutais, de l'énergie qui devait se transformer en compétences. Mais parfois, il n'y a pas besoin de prendre ce temps-là pour former une personne à acquérir des compétences, si la compétence est déjà là. Donc autant l'acquérir directement.
Est-ce qu'il reste encore beaucoup à faire dans le domaine de l'utilisation de LinkedIn, ce qui impliquerait que votre société a encore un fort potentiel de développement?
Oui, oui, tout à fait. On discute régulièrement avec des entrepreneurs qui ont ce réseau en horreur, des personnes qui ne connaissent pas ce réseau. Et moi, j'aime bien dire qu'on n'est pas des dogmatiques de LinkedIn, on est des pragmatiques. À partir du moment où on a des clients et des partenaires qui sont sur ce réseau, il faut être sur ce réseau. Et le pragmatisme, c'est mettre en place la bonne stratégie en passant le moins de temps sur LinkedIn. Donc oui, il y a encore énormément de besoins et on est là pour y répondre.
Donc il y a encore des freins dans l'utilisation de LinkedIn. Ils sont liés à quoi ces freins? C'est une question générationnelle aussi éventuellement ou pas seulement?
Il peut y avoir de cela. Il y a aussi, il y a des personnes qui ne connaissent pas ce réseau. Il y a des personnes qui connaissent ce réseau et qui ne l'aiment pas. Parce qu'elles vont voir des communications, des styles de communication de personnes qui ne leur correspondent pas. Et puis, il y a des personnes qui ont cette appréhension technique par rapport au réseau et des personnes qui ont une appréhension par rapport à leur place sur ce réseau. Sont-elles légitimes pour communiquer sur ce réseau? Alors, toutes ces personnes, on sait travailler avec elles, c'est des réponses différentes qu'il faut leur apporter. À partir du moment où on a ses clients et ses prospects sur LinkedIn, il faut y être et c'est notre métier de les réconcilier avec ce réseau.
Merci Nassim Amis, c'est la fin de ce troisième numéro, il nous en reste encore un quatrième rendez-vous de cette série dédiée à Eagle Eye Digital, votre société. La semaine prochaine, nous évoquerons la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises et ce qu'elle peut représenter dans une société comme la vôtre. À bientôt donc.
C'était Echo, le rendez-vous des entreprises en Occitanie, en partenariat avec Mescar. Mescar, la maison d'investissement et de conseil, partenaire d'Echo, est présent à Toulouse.